RFI.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux enfants dans la guerre. Trop vite, il nous donne à voir l'histoire des conflits à travers leurs dessins. Au ras du sol, il se raconte à travers le temps et les continents.
J'ai vécu tellement de choses. Je suis immortelle. Je vais retourner vivre sous l'avocatier que mon père a planté. Plus tard, je planterai des graines. Diane, 12 ans. Rwanda.
Les enfants ont tout vécu, le Rwanda, l'Afghanistan, Israël-Palestine, la Première Guerre mondiale. Et les enfants ont à chaque fois dessiné ce qu'ils ont vu et entendu. Devenus des cibles, filles et garçons comprennent alors que la guerre, c'est pour de vrai. Et lorsqu'on tire, c'est pour tuer.
Si la guerre vient, je suis prête à l'affronter. Un problème, je ne peux pas apprendre à tirer, je suis trop myope. Et je n'ai aucune envie de m'affubler de lunettes. Nina, 1940.
Dessins d'enfants, guerre d'adultes, dessins silencieux pourtant criants de réalisme lorsque l'on prend la peine de les regarder en face. C'est ce que proposent les éditions Anamosa en publiant Déflagration, un livre qui fait date puisque pour la première fois, 150 dessins documentent tous les conflits du siècle à hauteur d'enfants.
Aux enfants du monde entier, j'enverrai une barrette de chocolat, un petit poisson et un hérisson. Aux adultes, je ne sais pas. Nicolina, 7 ans. Zagreb, année 1990.
La musique de Pascal Comlade sur RFI pour évoquer le vacarme de la guerre, vu, entendu et dessiné par les enfants depuis près d'un siècle dans les oreilles de notre invitée historienne Manon Pignot. Bonjour.
Bonjour.
De quelle façon ces dessins d'enfants dans la guerre, paraissant silencieux, évoquent-ils justement les bruits assourdissants de la guerre? Qu'est-ce que vous entendez lorsque vous regardez ces dessins, Manon Pignot?
J'entends beaucoup de choses. La première chose, je crois, et c'est pas le fait d'être historienne, c'est juste le fait d'être un être humain, c'est l'émotion, je crois. Et c'est ce qui fait que ce langage graphique est un langage universel. C'est que ces dessins, on les prend, qui que ce soit qui les voit, on les reçoit en pleine face, je crois. Ils sont tragiques, ils sont beaux en même temps. Et comme vous le disiez, ils sont incroyablement, parlants. C'est-à-dire que ça a beau être du papier, c'est loin d'être silencieux. C'est vraiment des voix de papier qui nous crient aux oreilles.
Manon Pignot, vous avez déjà publié plusieurs livres sur l'expérience enfantine de la guerre. Vous avez notamment écrit « Allons enfants de la patrie », édité au Seuil en 2014. Et vous avez montré qu'il était possible d'élargir ce qu'on appelle en histoire les sources, c'est-à-dire les documents à partir desquels vous pouvez mettre à jour un phénomène historique. Alors est-ce que vous, Manon Pignot, vous considérez néanmoins que ces 150 dessins rassemblés et publiés dans le livre « Déflagration » sont des sources, je dirais, suffisamment sérieuses pour étudier la guerre?
Absolument. Je crois vraiment que les dessins d'enfants sont des sources historiques à part entière, au même titre que n'importe quel autre type d'archive. À partir du moment où on accepte de considérer les enfants comme des acteurs sociaux à part entière, qui sont donc pris dans des sociétés, qui sont enchâssés dans des environnements culturels, comme n'importe quel autre individu dans une société, à ce moment-là, ce qu'ils vont produire comme discours peut être considéré comme une source et donc utilisable par l'historien. Évidemment, les enfants ne disent pas la vérité. aucune source historique ne dit la vérité vraie. Ce sont des points de vue, ce sont des expressions, ce sont des paroles qui sont soumises à interprétation. Ce sont aussi des représentations de la guerre. On n'a pas à s'en méfier plus et on n'a pas à s'en méfier moins. Mais de mon point de vue, un dessin d'enfant sur le Darfour, sur la guerre d'Espagne ou sur la Deuxième Guerre mondiale est une représentation de la guerre comme n'importe quel discours d'homme politique, comme n'importe quel article de presse, comme n'importe quel roman publié pendant un conflit.
Alors, ce qui est très intéressant et novateur, c'est que les dessins proposé dans Déflagration couvre un siècle de conflits sur tous les continents. Est-ce que ça veut dire, Manon Pignot, qu'au fond, les enfants dans la guerre partagent une communauté de destin ?
En tout cas, ce que les dessins nous disent, c'est qu'il y a une sorte de communauté graphique. C'est-à-dire que l'enjeu pour nous, c'est pas de dire toutes les guerres sont pareilles et toutes les expériences sont les mêmes. On n'est pas là pour hiérarchiser les conflits les uns par rapport aux autres, ni hiérarchiser les expériences, ni pour les niveler.
Effectivement, parce qu'on pourrait se demander ce qu'il y a de commun entre une petite fille enlevée par Boko Haram au Nigeria, par exemple, et réduite à l'esclavage sexuel, et un petit garçon sous les bombes à Paris en 1940.
Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est pas du tout ni de les hiérarchiser, ni de les niveler, mais c'est, en réalité, c'est vraiment notre réflexion collective, hein, parce que je parle au nom d'un collectif de chercheurs, elle est née de l'observation de ces dessins. C'est-à-dire que ce qui nous a beaucoup frappé, et ce qui me frappe beaucoup en tant qu'historienne, c'est que ces dessins sont à la fois incroyablement propres à chaque conflit qu'ils représentent. Donc il y a une véritable spécificité historique pour chaque dessin. Et en même temps, ces dessins dialoguent les uns avec les autres. Parce que les mêmes thèmes, les mêmes types de représentations, les mêmes signes, les mêmes symboles reviennent d'un dessin à l'autre et d'une guerre à l'autre.
Alors pour bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de dessins d'enfants, je vous propose d'écouter la voix de l'anthropologue Françoise Héritier, aujourd'hui décédée, Déflagration et son dernier projet. Dans la préface, elle a écrit « Ils ont vu, ils ont couru, ils se sont cachés, ils ont essayé de se taire pour ne pas attirer l'attention, mais ils ont entendu tous les bruits. Cela, le dessin ne peut le dire, mais il semble que certains traits cherchent à rendre compte de la puissance déflagratrice du bruit qui accompagne ces exactions. Le silence est total sur la page, mais la réalité obscène a dû être faite de fureur et de vacarme. » Alors écoutez la voix de Françoise Héritier, elle commente le dessin d'un garçon qui avait 9 ans quand son village du Darfour, qui est situé à l'ouest du Soudan, a été attaqué par l'armée soudanaise et les milices Janjaweed. C'était en 2003. Le dessin représente très précisément les avions dans le ciel, en tenue de camouflage. Ils sont verts, ils sont jaunes, comme les soldats. On voit aussi les cases avec des toits qui brûlent à cause des bombes. Et puis de nombreuses scènes de violence à l'égard des villageois et de leurs enfants en train de se dérouler sous les yeux du dessinateur.
Ce dessin, au milieu de beaucoup d'autres, évoque une sorte d'objectivité. Il présente des horreurs, mais c'est un enfant qui a dépassé le stade émotionnel pour essayer de décrire objectivement ce qu'il a vu. Mais ça aurait pu être aussi bien un adulte qui représente ces choses-là. Il a grandi très vite. Je ne sais pas si cet enfant avait conscience de la qualité stylistique de son dessin. Parce qu'il était jeune quand même, 9 ans, mais c'est assez remarquable. L'auto-chenille, le système moteur des roues de la chenille est admirablement rendu avec une série de petits traits sous les roues. Les automitrailleuses avec leurs servants dans l'anaca, les bandes de mitraillettes qui sont sur la poitrine, les profils des gens, les cases en train de brûler, regard d'une froideur objective totale, et puis alors tout le reste, les gestes des soldats, la façon dont ils tiennent leurs armes, un homme qui emmène les femmes, tranquille, placide, il a mis son fusil à l'épaule, et il a sa petite casquette juchée sur le crâne, et puis vous voyez, il emmène deux jeunes, les bras liés dans le dos, et une vieille, en robe blanche avec sa canne. Mais il ne fait pas de quartier, il emmène tout le monde.
Darfour, les attaques ont principalement visé les agriculteurs, car le conflit a pour enjeu principal le contrôle des terres. Au prétexte de supprimer la rébellion, le gouvernement soudanais, son armée et sa milice ont bombardé les villages, massacré, violé les civils, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants.
Et après, le détail de la cruauté. Un homme qui est en train d'en égorger un autre, enfin un Jean Jaouid, un soldat, qui en égorge un autre, et un autre qui flingue froidement, on voit les balles, et il y a deux femmes qui s'en vont, qui s'enfuient avec leurs trois enfants, et ils flinguent les petits, les tout petits de préférence. C'est un des rares dessins qui aille si loin dans le détail de la cruauté, parce que c'est le seul parmi tous, où vous voyez à la fois le détail réaliste des trois pierres de feu. Parce que les feux, c'est comme ça, trois pierres et puis le feu au milieu, avec la casserole, enfin la jarre en train de cuire, et les soldats qui plongent la tête la première, un bébé vivant, dans l'eau bouillante. C'est quand même extraordinaire qu'un enfant puisse présenter ce genre de choses, avec, encore une fois, cette objectivité dans le regard avec le feu, la fumée du feu, presque d'une certaine façon les jambes de l'enfant qui se secouent, c'est effrayant. C'est effrayant en soi. L'enfant que l'on brûle tout vivant dans une bassine à l'eau bouillante. C'est quand même un sacré dessin.
C'est quand même un sacré dessin que celui de ce garçon de 9 ans, au Darfour, décrit par l'anthropologue Françoise Héritier, l'un des 150 dessins du livre « Déflagration » coordonné par Zéran Girardot et dont vous êtes l'une des auteurs, Manon Pignot. À quoi ce dessin nous permet-il d'accéder au fond ?
Alors, ce dessin, merveilleusement décrit par Françoise Héritier, nous fait d'abord comprendre une première chose, c'est vraiment que le dessin d'enfant, il a une valeur de témoignage. C'est-à-dire que le dessin, c'est ce qui est à la portée de tous, même quand on ne sait pas écrire, soit qu'on est trop jeune pour avoir eu le temps d'apprendre à écrire, soit qu'on n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école et d'apprendre à écrire. Donc c'est une manière de raconter sa propre expérience, en l'occurrence là, cette expérience terrible des massacres de civils au Darfour, et de donner à voir la guerre. Donc ce qui nous frappe dans ces dessins, c'est cette double fonction, c'est-à-dire à la fois raconter son expérience à soi, personnelle, et en cela, aussi tragique soit-il, ces dessins sont aussi des preuves de vie, parce que si les enfants ont pu les dessiner, c'est qu'ils ont survécu. Donc c'est aussi un signe hein, de cette capacité de résilience des enfants plongés dans les conflits. Et puis, d'une manière plus générale, ils nous renseignent sur ce que c'est que la guerre. C'est-à-dire que, voilà, sous l'avalanche de l'information qui passe et qui ne repasse pas forcément, on entend parler d'un conflit et puis on oublie, et puis voilà. La force des dessins d'enfants, c'est la force d'évocation de la réalité. Françoise Héritier disait très bien la cruauté. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un massacre de civils et de le voir représenté à la fois sobrement et aussi minutieusement, ça vaut tous les discours.
Et techniquement presque, hein, j'allais ajouter.
Exactement, exactement. Et d'autant plus pour le Darfour, si vous me permettez d'ajouter ça. Techniquement, oui, parce que la minutie du détail, elle a une fonction importante. C'est d'abord, elle fait preuve. C'est-à-dire qu'il y a des choses que des enfants qui sont impliqués dans les conflits voient, que des enfants qui auraient été plus à l'arrière, plus protégés, n'auraient pas vu. Et donc ces détails-là, ils sont bien le signe que les enfants ont vu. Et c'est d'autant plus intéressant que, dans le cas du Darfour, la Cour pénale internationale a récemment décidé de retenir un certain nombre de dessins collectés par les ONG au titre de preuves, au titre de témoignages, au même titre que les témoignages oraux.
Manon Pignot, est-ce que par ailleurs, dessiner, se saisir d'un crayon qui nous est tendu après un conflit, quand on est dans un camp de réfugiés ou dans un hôpital ou quand on a été exfiltré dans un autre pays, est-ce que ça permet aussi de construire sa propre mémoire de l'événement ? Est-ce que c'est un révélateur?
Absolument, mais d'ailleurs le dessin comme support de la cure ou de la thérapie, c'est quelque chose que les psychologues et les psychiatres connaissent et utilisent depuis longtemps. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que nous n'avons pas tous le même rapport à ces dessins, le même usage. Les psys par exemple vont s'intéresser à l'ordre de composition du dessin, ils vont regarder les enfants qui dessinent avant même de regarder ce que les enfants dessinent. C'est ça les intéresse, et parce que pour eux, ça dit des choses de la psyché de l'enfant à ce moment-là. Donc il y a cette fonction thérapeutique du dessin, et puis il y a effectivement l'idée fondamentale, je crois, de laisser trace de sa propre expérience, mais par extension, de laisser trace de l'existence du massacre ou du conflit.
Alors plus largement, que nous apprend cet ouvrage collectif sur le parcours du dessin? Ce que je veux dire, c'est du moment où il a été produit jusqu'au moment où il est analysé par l'anthropologue Françoise Héritier ou encore par vous, l'historienne de l'enfance en guerre, Manon Pignot.
Alors c'est les trajectoires de ces dessins sont très variables, mais le point commun, le point de départ, c'est toujours qu'il y a des individus, des individualités qui s'en saisissent et qui se disent il faut les conserver. Alors ça peut être un instituteur ou une institutrice, je pense par exemple à la Première Guerre mondiale ou à la Seconde, ça peut être un éducateur, comme a été Alfred Bronner pendant la guerre d'Espagne, ça peut être des médecins, des bénévoles d'ONG, des soignants qui encore aujourd'hui, à l'heure où on parle là maintenant, font dessiner les enfants en Syrie par exemple, ou en Irak, et qui vont conserver ces dessins. Ensuite, les chemins sont extrêmement tortueux pour ensuite arriver jusqu'à nous, mais certains sont rangés dans une boîte à chaussures et restent pendant 80 ans, c'est le cas des dessins de la Grande Guerre, jusqu'à ce qu'un conservateur ouvre la boîte à chaussures et tombe nez à nez avec des centaines de dessins. Et c'est là le travail immense que Zeran Girardot a fait pour ce travail, ce livre et l'exposition à Strasbourg, c'est qu'elle est elle-même allait solliciter les ONG pour leur dire « si vous avez des dessins, est-ce que vous pouvez me les confier ou est-ce que je peux en faire des copies ?» pour que justement l'exposition et le livre portent témoignage des conflits encore en cours aujourd'hui.
Donc l'idée, c'est bien de collecter les dessins et en quelque sorte de faire une recherche, d'entamer un projet de recherche à travers un certain nombre de dessins qui pourraient, comme on dit, constituer un corpus qui pourrait être suffisamment large, exhaustif et de différentes périodes pour pouvoir être étudié.
Oui, absolument. Ça, c'est notre projet à plus long terme, c'est d'essayer de constituer un fonds d'archives. Mais je crois qu'avant cela et avant toute vision un peu utilitariste de la chose, je crois que vraiment ce qui était moteur dans la démarche de Zeran Girardot et démarche à laquelle je me suis associée, Françoise Héritier s'est associée, à laquelle tous les chercheurs se sont associés dans son sillage, c'était vraiment l'idée de dire cette parole existe. Et la moindre des choses, j'ai souvent entendu Zeran répéter cette phrase, la moindre des choses qu'on puisse faire, nous adultes, c'est juste de l'entendre.
Donc dessiner, c'est parler.
Dessiner, c'est parler. Le dessin est une parole, ça c'est indéniable. Et donc la moindre des choses que nous pouvons faire, nous adultes, nous occidentaux protégés dans un monde relativement en paix, c'est de dire on entend cette parole, on accueille cette parole et on fait tout ce qu'il faut pour au moins la conserver. D'autant plus que, voilà, y compris dans les conflits très récents, certains des jeunes dessinateurs qui sont représentés dans le livre sont vraisemblablement morts aujourd'hui, à l'heure où on parle. Donc c'est vraiment l'idée de garder une trace qui soit aussi une trace mémorielle de ces conflits, mais les conflits, c'est pas juste des chiffres qu'on aligne sur des feuilles de papier, c'est d'abord et avant tout des individus, des gens, et en l'occurrence là, des enfants.
À partir des dessins rassemblés par l'association Zeran Confluence Artistique et montrés dans l'exposition et le livre Déflagration, nous découvrons comment les dessins d'enfants peuvent documenter le phénomène guerrier et nous nous demandons ce que la guerre fait aux âmes et au cœur des enfants et au corps des enfants.
Tu viens, on y va.
Où ça?
Au cimetière.
Oh non, pas maintenant, il fait noir.
Et puis d'abord, il a tout bouclé. On ira demain.
Il est beau.
S'il est beau.
Toutes les croix et les étiquettes.
Raconte-moi. pensez? Des escargots?
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Je vais coucher dans ma grange.
Valérie Niveau.
150 dessins donnent la parole à 150 enfants. Ils sont les témoins d'un siècle de conflits.
Quand on est gosse, on vit dans un autre monde. On ne voit pas les choses de haut. On vit au ras du sol. Alors les avions font encore plus peur. Les bombes aussi. Je me souviens que j'étais jaloux des scarabées. Ils étaient tellement petits qu'ils pouvaient toujours se cacher n'importe où sous la terre. Je me disais que quand je mourrais, je deviendrais un animal et m'enfuirais dans la forêt. Dima Soufrankov, ingénieur mécanicien, 5 ans alors, Seconde Guerre mondiale, Union soviétique.
Les mots de Dima dans la marche du monde, dans la voix de la comédienne Pauline Moulin. Dima a signé son dessin, tout comme Ibrahim, Zora, tandis que d'autres enfants ont dû rester anonymes pour leur sécurité. Dans le livre « Déflagration », les dessins publiés n'ont pas de titre, mais ils sont accompagnés d'une longue légende. On peut lire par exemple en haut de la page 81, où l'on voit représenté à grands traits un corps tout bleu au-dessus duquel flotte une tête toute rouge. Siri, 2016, fille de 8 ans, originaire de la ville de Dera, réfugiée en Jordanie. À Dera, en plus des affrontements entre l'armée du gouvernement et l'armée syrienne libre, les civils sont également témoins d'exactions faites par les combattants de l'État islamique. Beaucoup des enfants de Dera, aujourd'hui réfugiés, ont assisté aux décapitations de civils par les membres de Daesh. C'est ce que l'enfant représente dans ce dessin. La source, c'est Médecins sans frontières. Retrouvons notre invitée, Manon Pignot, dans La Marche du Monde, l'une des auteurs de ce livre, Déflagration, qui nous interpelle sur la question des enfants de la guerre. Alors qu'est-ce que ça désigne justement cette expression pour vous, qui êtes historienne, enfants de la guerre ?
Alors, habituellement, les historiens désignent sous cette expression enfants de la guerre les enfants qui sont nés d'un conflit. Par exemple, les enfants nés du viol de guerre. Ou par exemple, les enfants nés de couples mixtes qui se croiseraient en zone d'occupation. Mais d'une manière plus générale, je crois que ce que les dessins rassemblés ici racontent, enfin décrivent, c'est bien que ce sont des enfants de la guerre au sens où l'expérience de guerre qu'ils dessinent est telle et tellement à la fois intense, terrible, qu'en réalité, elle va transformer durablement, définitivement, éternellement leur vie. Elle a transformé celle de leurs parents, ce sont souvent des enfants orphelins, et elle transforme leur vie irrémédiablement. Donc oui, la guerre devient presque constitutive de leur parcours de vie.
Et l'UNICEF, qui parraine ce livre Déflagration, mentionne dans son rapport 2016 que 85 millions d'enfants de 0 à 7 ans dans le monde n'ont connu que la guerre. Donc ce sont bien des enfants de la guerre.
Absolument, c'est ça. Ils n'ont connu que ça. Ou même s'ils étaient nés avant le début du conflit, c'est Françoise Dolto qui raconte ça dans ses souvenirs d'enfance, parce qu'elle était petite fille pendant la Première Guerre mondiale. Et elle est née avant la Première Guerre mondiale, mais elle n'a pas tellement de souvenirs d'avant la guerre. Et elle raconte très bien dans ses souvenirs que quand la guerre de 14 s'est terminée en 1918, elle se demandait bien à quoi ça pouvait ressembler la vie en dehors de la guerre. Parce que pour elle, la guerre, c'était, voilà, c'était le quotidien, c'était la vie.
Alors justement, quel est l'impact de la guerre sur la vie quotidienne des enfants ?
Alors c'est très variable évidemment, je crois que là il faut distinguer, les dessins nous y aident d'ailleurs, il faut distinguer les conflits je dirais classiques, interétatiques, et puis les conflits intra-étatiques, les guerres civiles qui parfois dégénèrent en génocide ou en tout cas en massacre de civils, parce que ça peut avoir un impact différent sur les populations civiles, au sens où les civils ne sont pas nécessairement et systématiquement pris pour cible. Si je prends l'exemple de la guerre de 14, la guerre perturbe évidemment leur quotidien, ne serait-ce que parce que les hommes s'en vont pour combattre, mais la guerre va perturber leur vie quotidienne par ricochet, par capillarité, si j'ose dire. En revanche, pendant la guerre de 14, d'ailleurs, il y a quand même des régions entières de l'Europe qui sont occupées. Et là, c'est différent parce que vous avez les soldats ennemis chez vous, dans votre maison, dans votre ville, dans vos rues, qui s'en prennent à vos biens, qui s'en prennent aux personnes. Et là, le rapport à la violence change et donc le rapport à la guerre change. Donc effectivement, il y a presque autant d'expériences de guerre qu'il y a d'expériences enfantines.
Grâce au dessin des enfants, on peut aussi remonter le temps des conflits, comme vous venez de le faire, Manon Pignot, jusqu'à la Grande Guerre, celle de 14-18, et des premiers bombardements de civils.
Je me rappelle que d'abord, le sifflement des obus, les explosions et le crépitement des balles ne m'impressionnaient guère. Et puis, soudainement, j'ai brusquement compris que la balle tue. Et mon insouciance s'est transformée en horreur. Kik, Russie, 1917.
C'était il y a un siècle, Manon Pignot. Est-ce que ça signifie que déjà à l'époque, on tendait des crayons aux enfants pour dessiner ?
Oui, absolument. Dans tous les pays belligérants, on a fait dessiner les enfants. Alors quand je dis « on », ce sont les instituteurs en classe, mais aussi des sociétés pédagogiques qui ont pris l'initiative de faire dessiner les enfants dans, par le biais de grandes campagnes, par exemple, mais avec une intentionnalité quand même derrière, qui était de vérifier, si j'ose dire, la bonne efficacité du discours de mobilisation, du discours de propagande.
Les enfants sont-ils des patriotes ?
Voilà. Est-ce que les données principales sont bien passées ? Est-ce qu'ils ont bien identifié qui étaient les gentils, qui étaient les méchants ? Mais c'est vrai qu'on a déjà des dessins et des collections de dessins en Russie, en Allemagne, en France, pendant la Première Guerre mondiale.
Alors vous écrivez dans Déflagration que ce n'est qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement pendant cette guerre civile espagnole 36-39, que le dessin d'enfant accède au statut de témoignage. Pour quelles raisons ?
Je crois que c'est lié à plusieurs choses. La première, c'est le fait que justement, au cours de la guerre d'Espagne, les civils, et en particulier les civils républicains, vont être délibérément pris pour cible, notamment par l'aviation allemande et italienne, nazie et fasciste, qui viennent soutenir le camp franquiste et qui vont bombarder les villes espagnoles républicaines, Madrid, Barcelone notamment. Donc, ils sont aux premières loges et ils reçoivent les obus qui leur sont destinés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui fait que la guerre d'Espagne est un moment comme ça un peu charnière, c'est aussi que la question du droit des enfants a évolué dans l'entre-deux-guerres et que donc il y a des grandes campagnes pacifistes qui vont utiliser les images des corps d'enfants espagnols morts pour essayer de soulever les consciences et de faire réagir les populations européennes. Et puis, la troisième raison qui est particulièrement représentée dans le livre, c'est l'action d'un couple, Françoise et Alfred Bronner. Françoise qui est pédiatre, Alfred qui est vient plutôt, lui au contraire, des sciences sociales, je dirais, et qui sont engagés dans les brigades internationales, donc du côté des républicains espagnols, et qui vont se rendre, notamment à Barcelone, et qui vont faire dessiner les enfants, et qui vont conserver les dessins et les rapporter avec eux en 1937-38 quand ils sont obligés de rentrer en France.
Et c'est donc à partir de ce moment-là que le dessin devient une nouvelle source pour l'historien.
Je les voyais avec mes yeux de petite fille. Une petite fille de campagne aux yeux écarquillés. Mon premier Allemand, je l'ai vu de près. Ça m'a époustouflée. Tellement beau. Et il tue. C'est vrai qu'ils étaient beaux. Zina Gourskaya, 7 ans alors, Union soviétique, Seconde Guerre mondiale. Le crépuscule enflammait le ciel de rouge. La grand-mère dit: les âmes de tous ceux que la bombe a tués montent au ciel. Je ne peux oublier ce ciel rouge et noir. Depuis, je n'ai jamais revu un tel ciel. Sachiko Kobayashi, 7 ans en 1945.
kamikaze.
Ah, ça ressemble à une luciole.
Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais?
Je creuse une tombe. Maman aussi, elle est dans une tombe. C'est la tante qui me l'a dit. Elle a dit que maman était morte et qu'on l'avait mise dans une tombe.
Un jour, on ira sur sa tombe. Je t'emmènerai la voir avec moi. Tu te souviens du cimetière où on avait été un jour? C'est là qu'est la tombe de maman. Juste en dessous d'un grand camphrier.
Pourquoi est-ce que les lucioles meurent tellement vite?
Bombardement, ciel, déflagration sont autant d'entrées dans ce livre-album regroupant 150 dessins d'enfants et guerre d'adultes. Car pour comprendre le phénomène guerrier, ses pratiques et ses représentations, il faut comprendre ce que la guerre fait aux enfants, à leur corps comme à leur âme, pour vous paraphraser, Manon Pignot. Alors est-ce qu'il faut du coup s'intéresser à des thèmes communs à tous ces enfants plutôt qu'à une chronologie des conflits ?
Oui, je crois qu'encore une fois, la démarche de Zeran Girardeau a été une démarche très historienne, c'est-à-dire qu'elle est vraiment partie de ce qu'elle avait sous les yeux. Or, il nous est rapidement apparu que on ne pouvait pas classer et organiser ces dessins par ordre chronologique. D'abord parce que ça risquait justement de réintroduire une forme de hiérarchisation qui ne nous plaisait pas tellement. On n'est pas là pour débattre du nombre de victimes, de comparer les bilans. C'est pas ça qui nous intéresse ici. Mais au contraire, de constater ce dialogue qui se noue à travers les décennies et à travers les conflits entre les dessins. Et donc des thématiques qui vont revenir, des manières de représenter la guerre qui vont revenir. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix d'organiser thématiquement le livre. Et de ce point de vue-là, on est bien sûr à l'école hein, de l'anthropologie et notamment des travaux fondateurs de Françoise Héritier qui parlent des invariants. Ces grands thèmes, ces grands objets, ces grands signes qui jalonnent l'histoire des hommes et qui vont revenir représentés dans les dessins.
On en cite quelques-uns.
Alors, il y a bien sûr la maison. Et la maison, c'est important, en particulier quand il s'agit de dessins d'enfants, puisque les enfants, de facto, sont souvent réduits à leur espace domestique. Or, quand l'espace domestique est envahi, ou détruit, ou pulvérisé, c'est bien plus qu'un mur de pierre qui tombe. C'est un symbole, c'est tout ce que la maison représente. Ça peut être la maison, ça peut être bien sûr le corps, et les atteintes faites au corps, et elles sont nombreuses, ces atteintes, elles sont épouvantables la plupart du temps. C'est aussi les signes, ce sont sans doute les plus frappants, les signes de l'effroi, de la peur, de la terreur, qui vont être matérialisés à travers, par exemple, des yeux écarquillés, des cils dressés, des cheveux dressés sur la tête, des membres avec des doigts dressés comme des cheveux également. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler des invariants anthropologiques de l'expérience de guerre enfantine.
On prenait le petit déjeuner, la maison était sur le point de tomber sur nous. On est tous sortis. Le verre brisé est tombé sur nous. Il s'est ébranlé, puis il s'est cassé. Nous sommes allés voir ce que la bombe avait détruit. Elle avait détruit la maison d'un ami. J'ai eu très peur pour lui. Je rêve que quelque chose vienne pour me tuer. Je vois quelque chose. Une tribu qui veut me manger. Ça me fait peur. Alors, je décide de rester endormie, de ne pas me réveiller.
«
Extrait du film de l'UNICEF projeté dans l'exposition Déflagration, car Déflagration c'est un livre, mais c'est aussi une exposition jusqu'au 16 décembre 2017 à Strasbourg, c'est dans l'Est de la France. Avec vous Manon Pignot, nous continuons à feuilleter ce livre aux 150 dessins des enfants dans la guerre. Il y a bien sûr le traumatisme des bombardements, mais il y a aussi, moins attendu, le thème des rêves, comme vient de l'évoquer ce petit garçon syrien réfugié au Liban.
Oui, et ça fait partie des dessins qui sont bien sûr moins immédiatement violents. Au contraire, ce sont des dessins presque apaisants et on est même étonné de les trouver. Il y a beaucoup de dessins très colorés, des dessins avec beaucoup d'animaux ou la présence de la nature, des arbres, du soleil sont très importants. Et en même temps, ces dessins sont tragiques aussi. Parce que quand on voit la légende et quand on voit où est-ce que ces dessins ont été réalisés, on se sent pétrifié. Je pense notamment, il y a un dessin qui est un soleil, juste un soleil. Donc c'est la vie, quoi. C'est vraiment la vie dans toute sa splendeur. Et en même temps, le dessin a été réalisé au camp de Térésine, de Theresienstadt, en 1943. Ce qui signifie que, sans aucun doute possible, l'enfant qui a dessiné ce soleil magnifique est mort. En déportation, exterminée dans les chambres à gaz et dans les crématoires. Et donc, c'est toute l'ambiguïté, l'ambivalence et en même temps la force de ces dessins d'enfants. C'est-à-dire qu'à la fois, ils témoignent du tragique de l'expérience de guerre ou de l'expérience d'extermination et en même temps, ils témoignent de cette capacité de résilience, de lutte pour la vie, y compris dans les conditions les plus extrêmes et les plus terribles.
Et dans leurs dessins, les enfants représentent des combattants qui ne sont pas que des ennemis qui viennent faire du mal, ils ont aussi leurs héros. Et ça aussi, ce sont des dessins positifs.
Alors c'est dans le cas de conflits, pour le coup, interétatiques, ou dans le cas de conflits de guerre de libération nationale, de guerre d'indépendance. Et on comprend, bien sûr, qu'à ce moment-là, le combattant est un héros puisqu'il incarne tous les espoirs d'un peuple en lutte. Et c'est là qu'on voit bien que c'est quand même important d'historiciser ces dessins et de toujours les remettre dans leur contexte. Et donc, par exemple, effectivement, des dessins comme des dessins qui viennent de l'Algérie pendant la guerre d'indépendance algérienne ou qui viennent, je ne sais pas, du Vietnam, témoignent aussi de cette admiration des enfants pour les combattants qui incarnent cet espoir d'émancipation, d'indépendance, de libération.
Décolonisation.
De décolonisation, absolument.
Mais ce qui domine, c'est bien la souffrance, malgré tout, infligée et représentée par les corps omniprésents et disloqués.
Duron da nayi anan nake zo in gode abin da Boko Haram suka yi min.
J'ai fait ce dessin pour montrer ce que Boko Haram nous a fait. Ils sont venus, ont tué des gens et puis ils en ont égorgé. Ici, c'est quelqu'un de Boko Haram qui brûle un véhicule. Ici, c'est une antenne téléphonique qui est brûlée. Ma mère est morte quand j'étais très jeune. Quand Boko Haram est arrivé à notre maison, ils ont emmené mon père à l'extérieur et ils l'ont tué. Ils ont emporté certains des garçons, mais ils ont gardé les filles enfermées pendant 2 mois. Parfois, ils donnaient de l'argent à leurs grands frères et ils forçaient les filles à se marier. Certaines des filles sont tombées enceintes et sont allées à l'hôpital. Certaines sont dans ce camp aujourd'hui. Lorsque les soldats de Boko Haram revenaient de combat, il manquait à certains des bras ou des jambes. Certains cadavres n'avaient plus de tête.
Qu'est-ce que c'est? Carte d'identité. Tous Tutsi. Ils essayaient de brûler, faire disparaître ces gens. Hommes, femmes, enfants aussi. Armée, gendarmerie. Ils prendre tous les Tutsis et mettre dans l'église. Promis sécurité ici. Après, inviter une milice locale, entrer et tuer Tutsis. Tous, avec machette. Africa!
D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.
Les corps sont particulièrement ciblés dans les conflits civils et c'est ce qui apparaît souvent dans les dessins des enfants, dans les cas notamment de génocide. Écoutez la voix de Boubacar Boris Diop, il signe l'un des textes de Déflagration. Le grand auteur sénégalais a répondu à l'invitation de mon confrère Théogène Karabayinga, aujourd'hui disparu. En 1998, Boubacar Boris Diop s'est rendu au Rwanda pour voir de près le génocide. Son expérience de terrain a nourri son texte, Mourambi, le livre des ossements, publié en 2000 aux éditions Zulma.
Ce que j'ai voulu, moi, c'est que tout lecteur, qu'il soit latino-américain, qu'il soit japonais, qu'il soit canadien, qu'il soit sénégalais, camerounais, que tout lecteur se retrouve dans ce texte. J'ai essayé de faire quelque chose de très simple et facile à lire. Un génocide, c'est quelque chose d'indicible. Je dis parfois que c'est une expérience de la folie, dans la mesure où lorsqu'on en parle à des gens, ils sont tellement loin de cela qu'on se retrouve dans une espèce de solitude. Je ne pense pas qu'il soit possible de parler de l'horreur en alignant des atrocités. Il faut trouver des formules, il faut faire en sorte que chacun puisse s'identifier, se reconnaître. Il faut donner un visage aux victimes, mais aussi aux bourreaux.
Qu'est-ce qui vous a le plus horripilé, agacé ces derniers mois?
Ça, là, je réponds immédiatement, c'est de voir à quel point tout le monde se fout de ce qui est arrivé au Rwanda. En 94, aussi bien en Occident qu'en Afrique. Une certaine indifférence, une certaine façon de dire « ils se sont entretués, nous en avons honte, mais nous n'avons rien à voir dedans ». Ça, ça me rend littéralement fou de rage. Mais je me dis aussi que, bon, un génocide, c'est commis par les pères, mais le crime est expié par les enfants. Ça veut dire qu'on continuera longtemps à parler de ce qui est arrivé au Rwanda.
La voix de Boubacar Boris Diop dans La Marche du Monde, une archive RFI au micro de Pierre Gans. Boubacar Boris Diop évoque par la fiction l'expérience des enfants du génocide des Tutsis au Rwanda et il dit « les enfants expient le crime commis par leur père ». Qu'en pensez-vous, Manon Pignot ?
Je pense que c'est extrêmement juste. On comprend l'importance de la place du corps et du coup les enjeux que représentent les atteintes au corps. Et c'est ça que ces dessins nous donnent à voir. Boubacar Boris Diop vient d'évoquer le fait que la difficulté à dire le génocide, le fait qu'on se heurte comme ça à de l'indicible, parce que c'est un tel degré d'horreur que les mots manquent même pour pouvoir le décrire. Et c'est là sans doute la force des dessins d'enfants et notamment des dessins des enfants rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda, c'est de mettre en image et donc en paroles graphiques des choses qu'on ne supporterait sans doute pas de voir sous forme photographique ou même qu'on ne supporterait pas de lire peut-être, mais que on reçoit sous ces formes de dessin. Et effectivement, l'atteinte au corps et la manière de s'en prendre au corps et en particulier au corps des civils, c'est bien sûr une manière de porter atteinte à ce qui fait l'humanité dans la victime, et en particulier dans les situations de génocide, on le sait, ce qui caractérise un génocide, c'est justement le fait de s'en prendre aux enfants. C'est-à-dire d'aller anéantir la filiation, c'est de tuer les enfants, c'est de tuer les bébés, c'est de tuer les embryons ou les fœtus jusque dans le ventre des mères. Et donc, cet héritage de la mémoire du génocide, elle est portée en particulier par les enfants survivants du Rwanda.
Alors j'aimerais qu'on aborde un dernier thème, Manon Pignot, c'est la question des enfants soldats. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer sur cette question, à l'écoute de cette dernière parole d'enfant, mais devons-nous encore parler d'un enfant ?
J'ai été capturée par des combattants. Je suis devenue soldat, j'avais 8 ans. J'ai tué beaucoup de gens. J'ai coupé beaucoup de mains, j'ai brûlé beaucoup de maisons. Voilà. J'avais une amie. Elle s'appelait Sia Mouzi et était chef d'une small girl unit. Son nom de guerre, c'était Queen Cut Hands, parce que sa spécialité était de couper les bras et les mains des prisonniers. Elle était notre reine. Quand je partais en opération dans des villages, je violais des filles, bien sûr. Au camp, j'étais fidèle à Sia. Ibrahim Barry Jr., dit Cher Blood, enfant soldat à 8 ans, général à 14 ans, Sierra Leone, 1999.
La question complexe des enfants soldats, Manon Pignot. À la lumière de vos recherches depuis la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que déjà la dénomination enfant soldat convient à la chercheuse que vous êtes ?
Oui et non. C'est le terme officiel utilisé dans les législations internationales. Il me pose à moi problème en tant que chercheuse, bien sûr, parce qu'en réalité, il recouvre des situations un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les enfants, souvent très jeunes, qui sont raptés, enlevés, séquestrés, violés, martyrisés et forcés à combattre ou à commettre des exactions. Et ils sont très nombreux, on le sait. Mais il y a aussi toute une partie de ceux qu'on appelle les enfants soldats qui sont en réalité des adolescents et dont il faut accepter d'entendre la démarche volontaire de combat pour une cause.
Vous voulez dire d'engagement ?
D'engagement politique, idéologique. En France, par exemple, on évoque souvent la mémoire de tel ou tel résistant ou de tel ou tel homme politique en disant « il était résistant à 15 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale ».
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai. Et c'est tout à l'honneur de la personne que l'on évoque. Et alors, si c'est tout à son honneur d'être résistant à 15 ans en 1942, il faut aussi être capable d'accepter que dans d'autres régions du monde et à d'autres périodes de l'histoire contemporaine, il y a eu aussi des adolescents pour se lever et décider d'engager des combats politiques. Mais ce que je voudrais juste dire pour terminer sur les enfants soldats, la lecture qui nous a été faite de ce témoignage le dit bien, en réalité ça rejoint le cœur de notre propos dans Déflagration. C'est l'idée que les enfants sont victimes des guerres et souvent des victimes privilégiés au sens où ils sont des cibles, mais ils ne sont pas que cela. Ils sont aussi des témoins, on l'a dit, on l'a vu ensemble aujourd'hui, et ils sont aussi des acteurs sociaux des conflits.
Merci Manon Pignot.
Merci beaucoup.
Déflagration, les enfants dans la guerre, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel. Surtout, lisez et regardez ce livre important, c'est Déflagration, guerre d'adultes, dessins d'enfants, publié aux éditions Anamosa. Il me reste à vous inviter à nous rejoindre sur RFI.fr et aussi sur Facebook. Écrivez, podcastez cette émission.